archevêque de Toulouse, qui est à l'initiative de cette belle journée.
Donc bonjour à tous. J'en ai salué quelques-uns. J'espère pouvoir croiser plus ou moins tout le monde. En tout cas, nous nous réjouissons. Je vois que vous arrivez avec plein d'enthousiasme. Et moi aussi, de vous voir plein d'enthousiasme, ça me donne plein d'enthousiasme. Donc, gloire à Dieu. Nous voici donc rassemblés, nombreux, en cette fête de Pentecôte, pour louer le Seigneur, pour invoquer sur nous, sur notre diocèse, sur l'Église universelle, sur le monde entier, particulièrement sur les confirmants, l'Esprit Saint, pour qu'il transforme nos vies et tout l'univers. Au cours de cette journée, nous allons nous rencontrer les uns les autres et découvrir d'une manière nouvelle la beauté de notre Église diocésaine, de cette grande famille de Dieu en Haute-Garonne. L'Église de Toulouse est une vieille dame, née au IIIe siècle, qui a une riche histoire, qui a donné de nombreux saints, et ce n'est pas fini, et qui ne cesse d'enfanter de nouvelles générations. Aujourd'hui, il nous revient d'écrire une page de cette histoire, dans un contexte qui est le nôtre aujourd'hui, un contexte fortement sécularisé, mais en même temps dans un contexte de quête de sens, et nous le savons en France en particulier, un afflux de demandes de baptême de la part d'adultes et d'adolescents. Et donc, ma question, et je vais essayer d'y répondre, c'est comment annoncer la bonne nouvelle dans ce monde sécularisé qui se passe apparemment très bien de Dieu. Comment humaniser ce monde? Car quand on oublie Dieu, eh bien malheureusement on voit qu'il y a une œuvre de déshumanisation qui s'opère. Et donc comment annoncer la bonne nouvelle? Comment humaniser ce monde? Comment redonner toute leur place aux plus faibles, aux plus fragiles, aux embryons, aux nouveau-nés, aux vieillards, aux migrants? Comment redonner du sens à ce monde qui ne sait plus où il va? J'ai trouvé la réponse dans le prophète Zacharie, dans la Bible. Ni par la bravoure, ni par la force, mais par mon esprit seulement. Ni par la bravoure, ni par la force, mais mon esprit seulement. On pourrait tenter de cultiver un esprit de reconquête. On pourrait être tenté d'agir en tant que chrétien à la manière du monde. Le Seigneur nous dit, ni par la bravoure, ni par la force, mais par mon esprit seulement. La force appartient à Dieu, à nous la faiblesse. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, a manifesté la puissance de Dieu dans sa faiblesse humaine. Reconnaître nos faiblesses n'est pas une honte, mais un regard lucide sur l'être humain qui est constitutivement vulnérable. Certes, le Seigneur attend de nous que nous soyons courageux, que nous soyons forts dans la foi. Et dans les 7 dons du Saint-Esprit, je n'oublie pas l'esprit de force. Il nous donne une force intérieure qui est le fruit de la lumière divine dont il nous éclaire, le fruit de la charité divine qu'il déploie en nous. L'Esprit Saint nous fortifie dans la foi, l'espérance et la charité. Rien à voir avec la force selon ce monde. La force selon le monde impose, contraint, peut aller jusqu'à manipuler, exercer une emprise, réduire en esclavage. Bien sûr, le pouvoir politique peut être amené à utiliser la force et souvent doit l'utiliser pour faire respecter la loi, pour isoler ceux qui font le mal, pour maintenir l'ordre public, pour défendre le pays en cas d'agression, mais dans les limites du bien commun et dans le respect de la personne humaine et de la famille. Or, souvent, ces limites sont dépassées. Si nous regardons bien ce qui se passe dans le monde, nous voyons qu'il est mû par la logique de la loi du plus fort, au détriment du respect de l'autre. Cette logique n'est pas celle de Dieu. Dieu n'impose rien. Il nous a fait miséricorde. Il nous a libérés. Il nous a donné une loi de vie. Il nous a donné l'Esprit Saint qui nous rend libres face au mal. Il nous envoie porter la victoire du Christ dans le monde. Victoire de la lumière, de la vérité sur les ténèbres et le mensonge. Victoire de l'amour sur la haine, l'agression, la force selon le monde. J'aime bien rappeler que le Seigneur a envoyé ses disciples comme des agneaux au milieu des loups. Lui-même, vainqueur du mal et des ténèbres, est chanté au ciel comme l'agneau immolé et vainqueur, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus n'a pas fait acte de bravoure, Jésus n'est pas un héros, il a obéi humblement à la volonté de son Père, par amour pour son Père et pour nous. Durant son procès, il a manifesté la vérité et ses accusateurs n'ont pas pu le dominer, car personne ne peut dominer la vérité. Sur la croix, il a choisi de témoigner du plus grand amour et personne ne peut tuer l'amour. Jésus nous envoie en vainqueur avec ses propres armes, la vérité et la charité. Il nous envoie donc comme des pauvres. Et tout à l'heure, durant la messe, cet après-midi, nous allons entendre ou chanter la séquence de Pentecôte, cette belle prière du Veni Sancte Spiritus. Et nous allons dire, et nous allons entendre, « Viens, Esprit Saint, Père des pauvres !» Si nous voulons l'Esprit Saint, il nous faut être pauvres, pauvres de cœur. Et l'Esprit Saint veut déployer sa puissance dans notre faiblesse. Car la mission qui nous est confiée n'est pas nôtre, elle est l'œuvre de Dieu, elle est l'œuvre de l'Esprit Saint. Le pape Saint Jean-Paul II disait dans une encyclique sur la mission que l'Esprit Saint est le protagoniste de la mission. Et on trouve une belle illustration dans les Actes des Apôtres. Si on est attentif, vous vous souvenez de ce passage où Pierre est à Joppé et puis il y a quelqu'un qui... Pierre, en tout cas, est en train de prier et donc il a une vision, une extase avec cette fameuse nappe. Et la voix de Dieu lui dit de manger. Or, il y a des animaux impurs. Et Pierre dit d'abord, « Ah non, Seigneur, jamais je n'ai mangé de choses impures. Bon. » Et la voix lui dit, « Voilà, ce que Dieu déclare pur, ne le déclare pas impur. Bon. » Et voilà que pendant ce temps, un centurion romain, un païen, a une vision, un ange qui l'invite à inviter Pierre, à faire venir Pierre, pour qu'il lui prêche la bonne nouvelle. Et Pierre, donc, quand il entend à la porte les gens venus le chercher, comprend qu'il doit se laisser conduire et oser aller dans une maison païenne. Un juif ne rentrait pas dans une maison païenne. C'était se rendre impur. Et donc Pierre dépasse c'est les principes, les préceptes qu'il a reçus et ose aller chez ce centurion Corneille. Et là, au moment où il commence à prêcher, eh bien, il y a une effusion de l'Esprit Saint. Et Pierre donc se laisse conduire par l'Esprit Saint. C'est bien l'Esprit Saint qui mène la mission. Et on le voit encore dans les Actes des Apôtres, toujours. Donc, au chapitre 16, Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, Mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande « Passe en Macédoine et viens à notre secours ». À la suite de cette vision de Paul, nous avons cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Et donc, voilà, l'Esprit-Saint est le protagoniste de la mission. L'Esprit-Saint, c'est pour ça que pour nous, il nous faut l'accueillir et être assez pauvre pour qu'il déploie sa puissance dans notre pauvreté. L'Esprit-Saint nous donne le désir d'évangéliser, mais il ne nous donne pas la recette, ni les moyens. Il n'y a pas de recette pour évangéliser. Parce que l'évangélisation passe par nos pauvretés, par nos humbles gestes, par nos paroles maladroites. L'évangélisation passe par la rencontre, le risque de la rencontre. Elle n'est pas une leçon de catéchisme, elle ne cherche pas à convaincre. Ma pauvreté va à la rencontre d'une autre pauvreté. L'Esprit-Saint rend humble, il rend libre et obéissant. Il nous désapproprie. La mission n'est pas notre œuvre. Il nous appauvrit intérieurement. Il agit à notre insu, il nous fait poser des actes ou dire des paroles qui ne viennent pas de nous. Et donc, c'est ce que je voudrais donc, que nous retenions ce matin, donc, de cette expérience de notre propre pauvreté et de l'expérience de la puissance de l'Esprit-Saint dans nos pauvretés. Et donc, si nous voulons évangéliser le monde, participer à sa transformation, il nous faut commencer par nous attacher au Christ et nous laisser transformer nous-mêmes par la puissance de l'Esprit. La première étape de la mission est la conversion des missionnaires, notre conversion. Et donc, que nous le voulions ou non, nous devons apprivoiser nos pauvretés, nous réconcilier avec nos pauvretés, arrêter de les cacher. La sainteté ne se forge pas à la force du poignet. Elle est l'acceptation de nos pauvretés et un oui inconditionnel à Dieu. Et donc, voilà le travail que nous avons à faire. Renoncer à nos points de vue. Renoncer à tout et demander au Seigneur quelle est sa volonté. Enfin, la mission a aussi une dimension ecclésiale. Je ne mène pas la mission tout seul, jamais. Le Christ a envoyé ses disciples deux par deux. Et là, encore une fois, la mission n'est pas mon projet personnel, n'est pas mon affaire. Et donc, j'y vais en Église, où je fais discerner par l'Église mes idées, mes projets. J'ai le droit d'avoir des idées, bien sûr. Et c'est bien d'avoir des idées, des initiatives, mais je discerne en Église pour éviter d'en faire mon affaire personnelle. Et le fait d'être ensemble, eh bien, il y a des projets peut-être légitimes. La communauté, l'Église va me dire « Non, pas pour l'instant ». C'est frustrant, ça me maintient dans l'humilité, ça me maintient dans la pauvreté. Parce que le gros danger qui nous guette, encore une fois, c'est de nous approprier la mission, de nous approprier et finalement de nous chercher nous-mêmes plus que de chercher la volonté de Dieu. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, donc il y a de l'évangélisation sur les réseaux sociaux et c'est une très bonne initiative, mais attention à regarder Jésus, à travailler vraiment pour Jésus et non pas pour le nombre de followers. Parce que c'est le gros, gros danger. Nous travaillons pour le Christ. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Et nous ne sommes pas là pour, faire des shows et nous centrer, finalement, centrer les gens sur nous-mêmes. Nous sommes là pour conduire au Christ. Et donc, voilà le gros danger aussi de la dimension ecclésiale de la mission. Je termine donc en disant que voilà, le vrai disciple de Jésus est pauvre de cœur, conscient de ses limites, profondément vrai. Quand je suis arrivé à Grenoble pour prendre la charge du diocèse de Grenoble, je suis allé rencontrer les pères chartreux dans leur monastère. Et il ne faisait pas très chaud dans ce monastère. Et je demande d'ailleurs au jeune moine qui me faisait visiter, je dis, mais en hiver, vous n'avez pas trop froid? Oh non, on maintient 10 degrés dans la chapelle. Bon, je trouvais que c'était un peu juste. Mais... Et donc, je suis sorti de cette rencontre avec les pères chartreux en me disant, ce sont des pauvres, ils sont vrais. Ce sont des pauvres, ils sont vrais. Et c'est vraiment ce que nous devons travailler nous-mêmes, chacun d'entre nous. Accepter d'être des pauvres, être profondément vrai. Et donc, quitter notre propre idéal de sainteté, quitter l'image idéale que nous cherchons de nous-mêmes, quitter notre désir de perfection selon nos propres vues, et nous livrer au Christ et annoncer la bonne nouvelle. C'est simplement si nous sommes pauvres et si nous sommes vrais que nous pouvons être d'authentiques missionnaires. Alors, bonne journée à vous. Que l'Esprit-Saint vienne nous transformer profondément, ce qui va faire, je n'en doute pas, tout au long de cette journée, et que nous puissions repartir renforcés dans l'unité, l'amour fraternel, et en même temps dans l'élan missionnaire.
Merci, Monseigneur de Kerimel, archevêque de Toulouse.
Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Nous allons passer aux tables rondes et je vous présente Isabelle Duché qui monte en scène, la plus belle voix de la radio Présence. Isabelle Duché, accompagnée de Monique, Clémence, Gilles, coordonnée par Muriel et Ivan. Merci beaucoup Muriel et Ivan.
Ça y est, nous y sommes. Ce jour tant attendu de la Pentecôte 2025, c'est aujourd'hui. Nous avons commencé notre journée en priant et en louant le Seigneur. Notre archevêque, Monseigneur Guy de Kerimel, nous l'a affirmé, là où est l'Esprit Saint, là est la joie et la communion fraternelle. Il nous a encouragé à nous laisser toucher par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint va nous transformer aujourd'hui. Nous en avons la confiance. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir maintenant comment l'Esprit Saint transforme les cœurs de tous ceux qui se laissent toucher. Je vais vous présenter les invités de ce plateau. Clémence Pasquier, en bleu. Clémence Pasquier, vous travaillez pour la pastorale des jeunes du diocèse de Lyon. Vos deux ouvrages, Rebelles et Saints et Jeunes et Saints, témoignent que la sainteté est vraiment proposée à tous. Vous êtes atteinte d'une forme rare du cancer du sein depuis 10 ans et vous nous direz comment l'Esprit Saint vous conduit dans votre maladie. À vos côtés, Monique Dorégo, bonjour. Vous êtes paroissienne de l'Immaculée Conception et vous faites partie de l'EAP, l'équipe d'animation paroissiale. Vous êtes chargée de projets informatiques dans l'aéronautique et vous témoignerez de la façon dont l'Esprit Saint vous guide pour parler de Jésus autour de vous. Et enfin, Gilles Bousquet, paroissien de Saint-Joseph à Toulouse, vous avez été baptisé à Pâques et vous allez recevoir la confirmation cet après-midi. Vous êtes journaliste à La Dépêche, dans l'économie, l'aéronautique et l'immobilier, et vous témoignerez de la façon dont Dieu vous est venu vers vous et comment le Christ a changé votre vie. Merci à tous trois d'être là. Alors, nous sommes réunis ici pour transformer notre regard sur le réel. Nous allons commencer par un premier tour de table pour évoquer votre situation de départ, si on peut dire comme ça. Monique Dorégo, vous avez 58 ans. Comment Dieu vous a-t-il conduite jusqu'à ce que le don de l'Esprit-Saint vous transforme ?
Alors, bonjour à tous. Voilà. Alors, moi, je suis originaire du Togo. J'ai 58 ans. J'ai été baptisée à 3 mois. Le Saint-Esprit, pour moi, oui, on chantait le Saint-Esprit petite. Je connaissais le Saint-Esprit. Mais à l'adolescence, j'ai compris que j'étouffais le Saint-Esprit que j'ai reçu au baptême. J'ai compris que je l'étouffais, j'avais une vie un peu pas très triste, pas... j'étais pas en mission et voilà. Donc j'avais une soif intérieure, je savais pas, mais j'ai compris qu'il y avait une graine à l'intérieur de moi qui voulait pousser, mais qui n'arrivait pas à pousser, besoin de lumière. Et petit à petit, j'ai grandi, j'ai reçu cette lumière à travers la prière, prière fervente, à cette recherche, à crier vers le Seigneur par la parole, parce que tout y est dans la parole de Dieu. Et j'ai commencé petit à petit à découvrir cet amour de Dieu. Cette soif a commencé à disparaître petit à petit. Voilà, je vous en dirai plus tout à l'heure.
Oui, on garde le suspense. Merci Monique. Clémence, comme Monique, vous avez été baptisée bébé, vous avez grandi dans une famille chrétienne. Comment votre foi a progressé jusqu'à l'apparition de la maladie, donc il y a 10 ans?
Effectivement, j'ai eu la chance de grandir dans une famille catholique qui m'a appris des convictions qui sont restées. Le fait que Dieu m'aime, qui s'intéresse à tout ce que je vis et que mon histoire avec lui, c'est une histoire sainte. Et le fait qu'il peut agir concrètement dans ma vie, et donc en particulier par son Esprit Saint. Moi, j'ai grandi dans un milieu charismatique, donc en plus avec petit à petit une compréhension que l'Esprit Saint pouvait parler, guérir, agir. Et j'en ai fait l'expérience. Et donc ça a été une croissance toute progressive, passer de la foi de mes parents à ma foi, à ma confirmation entre autres, où j'ai aussi appris à laisser l'Esprit Saint et Dieu faire grandir tout ce qu'il avait déposé en moi de talent et tout ça. Donc voilà, toute ma jeunesse, ça a été un chemin d'apprivoisement de l'Esprit, de Dieu et de ce qui mettait en moi, mais tout naturel.
Tout naturel. Gilles Bousquet. Vous n'avez pas été baptisé petit, hein, puisqu'on l'a dit, vous avez été baptisé à Pâques. Vos parents ont souhaité que vous choisissiez plus tard. Vous avez attendu 46 ans pour recevoir le baptême. Comment avez-vous grandi avant de recevoir ce premier sacrement de l'initiation ?
En fait, c'est vrai que je vais dire des choses assez personnelles, mais je crois qu'on est là pour ça. En fait, moi, je suis né dans une famille avec des parents dont mon père était instituteur, assez laïque, pour pas dire laïcard, un peu hussard noir de la République, et qui souhaitait pas baptiser ni ma sœur ni moi, et en disant quand ils seront adultes ou en âge de comprendre, ils choisiront. Ma sœur a toujours pas choisi, moi j'ai choisi, et donc j'ai vécu dès l'âge de 6-7 ans, j'avais une conscience un peu lointaine qu'il y avait quelque chose de plus grand que nous. Mais c'était très enfoui, j'avais pas la compréhension. Et j'ai commencé à avoir une révélation au lycée, en classe de seconde. Il y a notre prof de français qui a lu un passage de Voltaire qui était agnostique et qui disait « Je ne peux concevoir que cette grande horloge n'ait point d'horloger ». Et ça, c'était, même si c'était une parole d'agnostique, ça m'a fait réfléchir sur... l'organisation du monde, la création du monde, etc. Et du coup, j'ai quand même... Là, j'ai cheminé un peu intérieurement et de manière solitaire. Et après 25 ans, j'ai eu l'opportunité. Je réfléchissais à me faire baptiser. J'en avais parlé à des proches. Et il y a un ami qui voulait me faire rencontrer un frère dominicain de Toulouse. Et puis, je sais pas, ça s'est pas fait parce que je pense que le Seigneur pensait que c'était pas le bon moment pour moi.
C'est ce que disait Monseigneur de Kerimel, quand c'est pas le moment, l'Esprit Saint voilà, vous demande d'attendre.
Et c'est arrivé il y a 2 ans, j'avais quand même des convictions en moi, puisque pour un de mes anniversaires, j'avais demandé à ce que ma famille m'offre une croix de Jésus, un pendentif que j'ai depuis une quinzaine d'années autour du cou. Et j'étais en vacances avec un ami. Et on était à la plage, donc il voit ma croix, il me dit « Ah, mais t'es croyant ?» Je lui dis « Oui, mais t'es pratiquant ?» Il me dit « Non. » Et il dit « Mais pourquoi t'es pas baptisé ?» Et je lui ai expliqué, et c'est lui qui m'a mis en contact avec un prêtre, parce que j'avais un peu l'appréhension de l'institution. J'osais pas, je suis allé plein de fois à Saint-Étienne, c'était ma paroisse de quartier, mais j'osais jamais aller rencontrer un prêtre, je me sentais presque illégitime, pas au niveau. Et puis finalement ça s'est fait, j'ai rencontré le père Vincent de Balma qui m'a envoyé vers le père Lisier qui était ma paroisse de quartier et j'ai commencé mon chemin de baptême.
Je ne sais pas si vous faites cette réflexion, mais ce que je trouve très beau dans chacun de ces parcours, c'est qu'on voit comment l'Esprit Saint prend la main de chacun et l'amène à son rythme. On va voir maintenant quel a été le déclic ou la rencontre dans votre vie qui permet de dire qu'il y a un avant et un après. Clémence Pasquier, vous témoignez que la maladie est venue bouleverser votre vie, vos habitudes et aussi votre foi. Vous avez 30 ans. Comment vivez-vous votre maladie avec Dieu et comment l'Esprit Saint finalement vous bouscule ?
Effectivement, à 20 ans, on m'a diagnostiqué un cancer et ça a été un basculement d'à peu près tout, mon rapport au temps, aux relations et à Dieu. D'abord parce que dans un premier temps, moi, je me suis jamais sentie abandonnée de Dieu et je l'ai vraiment toujours, pas forcément senti présent, mais su présent parce que je l'avais expérimenté avant et que je pouvais en faire mémoire. Et en même temps, tout le début de ma maladie, je me suis dit deux choses. Je me suis dit que être chrétien dans l'épreuve, c'était être fort. Enfin, en tout cas, sourire, serrer les dents et voilà, et avancer comme ça. Et du coup, je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai toujours su Dieu présent à mes côtés et demandé, par exemple, la guérison. Et je savais qu'il pouvait me la donner et que c'était concret. Et en même temps, elle ne venait pas. Et donc, c'était source d'incompréhension de qu'est-ce que Dieu voulait et qu'est-ce que Dieu faisait. Et en fait, un jour, je vais aller vite, hein, mais un jour, je me suis, au milieu d'une nuit, je pense, je me suis rendu compte en fait que quand je pleurais, Dieu pleurait avec moi. Quand j'avais mal, il avait mal avec moi. En fait, il était vraiment à mes côtés dans le concret du maintenant et pas juste dans ce que je projetais de « j'attends la guérison » et en fait, c'est la seule chose que je demande à Dieu. Et à ce moment-là, en fait, j'ai arrêté de lui demander de changer ma vie, pas qu'il puisse pas le faire, mais j'ai demandé de la vivre avec moi. Et il n'avait pas attendu pour le faire, c'est sûr. Mais à ce moment-là, en fait, ça a vraiment été un déclic. Parce que à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte d'à quel point Dieu était présent instant après instant, grâce après grâce. Que quand je me retournais, en fait, depuis le début de ma maladie, mais encore aujourd'hui, et maintenant je commence à pouvoir le dire sur une certaine expérience, il n'y avait jamais eu un manquement à la grâce. Je ne comprends pas ce que Dieu fait, je ne comprends pas, enfin voilà, ce n'est pas toujours sensible, et l'expérience de l'esprit, pour moi, elle n'est pas toujours extraordinaire, elle n'est pas toujours visible même, mais en fait, dès que je me retourne, je vois à quel point il y a toujours eu la grâce. Il y a eu la bonne personne au bon moment. Il y a eu ce qu'il faut pour pouvoir vivre les choses au moment où il faut. Et ça a été vraiment la transformation de la manière de vivre les choses. Aujourd'hui, je suis encore malade, et je ne désespère pas que Dieu me guérisse un jour, mais ce n'est plus la question. Pour moi, la question, c'est vraiment laisser Dieu agir en moi, pour me sanctifier, passer par moi comme il veut passer par moi. S'il me guérit, je suis contente, mais c'est pas très important. Et par contre, vraiment, il y a ce côté de... En fait, il y a des moments qui sont difficiles, et ça n'a pas enlevé ça. Je continue à avoir des moments qui sont difficiles. Mais ce qui a été transformé, c'est que maintenant, je sais qu'il y a toujours une chose sûre et qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu est présent là où je suis, et pas dans la vie telle que je voudrais qu'elle soit. Et donc, même dans les moments d'angoisse, même dans les moments de douleur, ben en fait... Je sais qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu est là où je suis et avec qui je suis, comme je suis, quoi. Voilà. Et il est là et il suffit à ce que tout soit en lui.
Est-ce que cette certitude de la présence de Dieu à vos côtés, dans vos épreuves, dans votre vie quotidienne, fait que vous n'avez plus de colère vis-à-vis de lui ?
Alors, moi, j'ai jamais été en colère contre Dieu, mais c'est pas forcément bon parce que, en fait, les émotions qui nous traversent, je pense qu'elles sont légitimes et qu'on peut les donner. Moi, j'ai beaucoup retourné la colère plutôt contre moi que contre Dieu. Donc, je peux pas trop répondre. Par contre, je suis certaine que Dieu est présent à mes côtés, mais ça a pas forcément enlevé mon incompréhension et le fait que je comprenne pas forcément toujours ce qu'il fait, ce qu'il fait pas, et que parfois, du coup, c'est dur. Enfin, en fait, ça reste parfois difficile et où je peux avoir des moments plus de lassitude, de fatigue, plus que de colère. Mais ça ne les a pas enlevés. Mais ça leur a donné aussi une place qui était juste, c'est-à-dire qui n'était pas le tout de ma vie spirituelle, mais qui avait sa raison d'être aussi, quoi. C'est-à-dire que Dieu, il accueille ça aussi et que... je ne suis pas moins digne à ses yeux quand j'en peux plus, quand je suis fatiguée. Parce qu'en fait, c'est justement dans ces moments-là qu'il vient me relever, qu'il vient passer à travers. Et qu'en fait, il me fait aussi passer d'une forme de d'efficacité où je fais tout avec mes propres forces, à une forme de fécondité où bah, c'est lui qui passe à travers moi.
On revient sur avec vous, Gilles Bousquet. Ouais. Vous nous avez dit que vous aviez eu des moments où vous étiez posé la question du baptême et que vous aviez finalement essayé d'avancer, puis ce n'était pas le bon moment. Quel a été finalement ce moment de la rencontre de Dieu et comment cette rencontre a transformé votre vie?
La rencontre, c'est vrai que ce que je racontais quand... Donc la personne qui a vu la croix autour de mon cou, qui m'a mis en contact avec un prêtre, est devenue mon parrain. Donc maintenant, on a une relation très proche et je suis content parce qu'il s'était un peu éloigné de l'Église, comme beaucoup de chrétiens. C'est un peu sécularisé et il allait moins aux messes, etc. Et le fait d'être mon parrain, il se ressent un peu comme une obligation. Et du coup, il va de nouveau à la messe. Alors, pas tous les dimanches, mais c'est déjà bien. Et du coup, on échange beaucoup sur les évangiles et il me fait grandir. Et donc, le moment clé, ça a été celui-là. En fait, j'ai ressenti une transformation pendant le catéchisme qui a duré un an et demi. Quand j'avais 25 ans, j'avais pas voulu qu'on me proposait de rencontrer le frère dominicain. On m'avait dit, ça va durer 2 ans à peu près, le catéchuménat. Et j'ai dit, ouais, 2 ans à 25 ans, ça paraît une éternité. J'avais dit, non, c'est pas possible. Et maintenant, j'avais un peu plus de maturité, donc j'ai dit oui. Et en fait, pendant mon catéchisme avec le père Lisier, en fait, un jour, il m'a dit, mais je vois l'Esprit Saint déjà à l'œuvre en toi. Et ça, c'était des paroles d'encouragement, donc c'était pour moi un signe. Et en fait, je sais pas ce que Dieu veut faire comme chemin avec moi, mais je sais qu'il veut en faire un. Je sais que je suis qu'au début et qu'il y avait des préalables, le baptême, la communion, la confirmation. Et un dimanche, en allant à l'église, au tout début de mon chemin, il y avait un flyer à côté des livres de chant sur catéchèse pour adultes. Donc je le prends, je vais voir le père Lisier, je lui dis « c'est bien ça, il y avait marqué le lundi soir et le jeudi soir au diocèse ». Il me dit « ah oui, vas-y, c'est le chemin néo-catéchuménal ». Et je lui dis « mais c'est quoi ?» Ben, tu verras, c'est un charisme de l'Église. Et bon, je ne savais pas trop où j'allais. Et en fait, et Dieu m'a, on a commencé à l'automne, il faisait nuit, j'arrivais après le travail avec des gens que je ne connaissais pas. Et en fait, c'est des communautés qui ont pour mission d'évangéliser, et évangéliser par la parole de Dieu. Donc en fait, on travaille les textes, on les apprend. En fait, c'est une catéchèse permanente pour adultes. Et en fait, quand on comprend les textes, ben, on s'arme contre l'adversaire, contre le diable, il faut le dire, parce que j'ai découvert assez tard l'existence du diable. Pour moi, c'était tellement terrifiant que je ne voulais même pas croire que ça existait. Et en fait, on s'arme avec ces textes pour faire le chemin que Dieu veut faire avec nous. Et c'est Dieu qui m'a mis le chemin néo-catéchuménal sur ma route. Maintenant, on se voit 2 fois par semaine, on prépare la parole et on rentre dans les textes. Et en fait, on comprend la parole de Dieu. Et en fait, ce que je voudrais partager, c'est que souvent on voit l'Église, enfin les gens autour de moi, ils ont du mal à comprendre comment à 46 ans, j'ai pu me mettre en chemin, j'ai pu faire un changement aussi radical. Mais ma plus belle grâce, c'est un jour, je discute avec mes amis, ils m'ont dit « Ouais, mais qu'est-ce qui t'arrive, t'as changé ?» Et je crois que les chrétiens que nous sommes, on peut évangéliser uniquement par notre comportement et par l'image qu'on renvoie au monde qui nous entoure. Ils voient comment on conduit nos vies, comment on se comporte avec les autres. Et moi, la foi m'a ouvert aux autres, m'a rendu beaucoup plus tolérant. J'étais dans mon monde très matérialiste, très carriériste. Et aujourd'hui, enfin, cette transformation, les gens la voient. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut évangéliser. Et donc, les moments clés, ils continuent à se succéder. Et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres.
Monique Dorégo, vous vous êtes engagée dans l'organisation du Congrès Mission et vous témoignez sans crainte de l'œuvre de Dieu dans votre vie et tout autour de vous, que ce soit dans votre milieu professionnel ou amical. D'où vous vient cette vitalité pour témoigner de votre foi?
Alors, moi, au début, je voulais le Saint-Esprit pour une direction dans ma vie. Et là, le Saint-Esprit m'envoie en mission partout, dans ma famille, autour de moi, au boulot. Alors concrètement, je vais vous donner quelques exemples. Autour de moi, j'avais une amie qui m'a demandé un service. J'ai refusé et elle ne me parlait plus. Et cette amie n'était pas dans la foi. Et pendant quelques temps, elle ne me parlait plus. Bon, moi, je priais et tout. Et je sentais dans mon cœur que le Saint-Esprit m'envoyait tout le temps vers cette personne, de lui pardonner. J'ai dit, mais non, je ne peux pas lui pardonner, quoi. Mais je sentais de la tristesse en moi et j'avais cette parole qui me revenait sans cesse. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Et j'étais triste et je pensais à ça et j'étais triste. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'aller la voir et de lui demander pardon. Alors je lui ai demandé pardon, elle s'est mise à pleurer. Non Monique, c'est pas à toi de me demander pardon, c'est moi qui t'ai fait beaucoup de mal. Et cette personne, j'ai commencé à l'aimer, elle a commencé à m'aimer, elle s'est convertie, elle s'est baptisée, elle m'a demandé d'être sa marraine. Voilà, la mission c'est ça, c'est pas facile autour de nous, mais le Seigneur nous donne la force. Comme dit Saint Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. On n'a pas la force, mais avec le Saint-Esprit, il nous guide. C'est notre GPS. C'est notre GPS qui nous envoie où on ne veut pas aller. Il m'a bousculée. J'étais timide. Il m'envoie en mission parler aux gens. Mais je dis, mais ce n'est pas possible. Donc, j'ai aspiré au don de l'Esprit Saint et maintenant, je n'arrive plus à me taire. J'ouvre la bouche et il parle en moi.
Monique dit qu'elle ne peut plus se taire. Et vous, Clémence, est-ce que vous pouvez dire la même chose?
Ah, je crois que oui. Je crois que oui. J'ai toujours eu, de toute façon, ce désir de dire au monde que Dieu est vivant, qu'il m'aime et tout. Et maintenant, je peux le dire aussi, je ne sais pas comment dire ça, mais avec... parfois la délicatesse qu'il faut pour pouvoir parler dans la souffrance. Enfin, en fait, c'est la grâce, je crois que je peux le dire. Quand Dieu nous fait passer par des épreuves et des souffrances, c'est qu'on est aussi capable d'entendre celle des autres et d'avoir un cœur plus ouvert à celle des autres. Et parfois, du coup, d'avoir aussi une délicatesse des mots, une délicatesse de la présence, parfois même du silence, parce qu'en fait... ne pas se taire, c'est pas forcément toujours des mots. Et je suis d'accord aussi sur le fait que parfois ça passe beaucoup aussi par la manière dont on vit les choses. Je comprends toujours pas tout. Mais il y a vraiment aussi cette même disposition de me dire, en fait, où Dieu veut m'envoyer, qu'il m'envoie. Un jour, donc moi je suis en mission pour l'Église auprès des jeunes. Mais un jour, mon père Spi m'a dit, t'es dans une mission diocésaine et le diocèse, ça s'arrête pas aux cathos qui sont déjà baptisés et dans le sérail. Et en fait, quand t'es à l'hôpital, t'es toujours en mission diocésaine, en fait. Et je l'ai vraiment vécu comme une unification aussi de toute ma vie, de me dire, ça s'arrête pas à la frontière de ce que moi, j'ai décidé que ça s'arrête. Dieu, il m'envoie là où il veut, quoi.
Est-ce que dans les...
Allez, oui, on peut.
Est-ce que dans les personnes qui ne croient pas forcément et que vous côtoyez, est-ce qu'il n'y a pas des questions sur « qui est-il ton Dieu puisqu'il ne te guérit pas ?»
Si, forcément. Et parfois aussi, ça s'exprime de manière plus dure encore, parce que parfois, ça s'exprime « qui est-il ton Dieu ?» parce que moi, il ne vient pas me rejoindre. C'est-à-dire que toi, il a l'air de te faire du bien, parce que à la limite, je pense que les gens avec qui je peux discuter, même s'ils voient qu'ils ne me guérissent pas, ils n'ont de toute façon pas conscience que Dieu peut guérir. Donc en fait, c'est pas ça qui les braque. Ce qui est difficile, c'est qu'ils peuvent voir en fait, que pour moi, c'est un soutien. Encore une fois, ça n'enlève pas les larmes, l'épreuve et tout, mais pour moi, c'est clairement une force intérieure. Et pour le coup, il peut y avoir un questionnement, de dire mais en fait, il est où moi? Quand en fait, moi, je galère depuis des années, qu'en fait, je suis toute seule, que, enfin voilà. Et ça, c'est pas forcément évident de répondre parce que la réponse c'est que Dieu est là, mais que il faut lui ouvrir la porte. Enfin, en fait, qu'il est là, qu'il frappe, et que parfois, c'est justement dans des discussions qu'on a, parfois dans un couloir d'hôpital, en fait, qui se manifeste. Mais malgré tout, c'est pas toujours sensible, aussi sensible que ce que les gens peut-être imaginent. Et donc c'est petit à petit, mais j'ai eu plein de fois des discussions qui ont vraiment conduit à des recommandations de livres, à aller faire un tour à la chapelle, des discussions plus difficiles aussi hein, sur le rapport à la mort, sur enfin, plein de trucs comme ça, et qui ont été, je crois, des manières pour Dieu de se révéler petit à petit.
Gilles, vous nous avez dit que des personnes avaient constaté que vous aviez changé. Comment ça se passe au boulot ? Dans ce milieu de journal
Ouais, alors en fait j'en fais pas trop étalage hein. Je suis pas honteux mais je suis pas prosélyte dans mon comportement. En fait les gens ont commencé à venir me voir quand ils ont vu que j'avais changé sur la tolérance, je vais dire les choses clairement. Je faisais des choses qui pensaient pas trop, enfin voilà, m'ouvrir, aller consacrer du temps aux autres, écouter les autres. Et en fait, dans les dons de l'Esprit Saint, il y a le conseil, je crois. Et en fait, je sais pas pourquoi, naturellement, depuis quelques mois, les gens viennent me voir pour avoir des conseils sur comment ils feraient, comment je ferais dans leur, s'ils ont des problèmes de couple, ils ont perdu un proche. Et en fait, moi, à chaque fois, récemment, il y a un ami a perdu sa grand-mère, et donc je lui dis, quel est son prénom ? Et il me dit, pourquoi tu me demandes son prénom ? Je lui dis, parce que je vais prier pour elle cette semaine. Et il était étonné, il me dit, mais tu la connais pas ? Je lui dis, je vais prier pour elle, pour qu'elle soit accueillie dans la lumière du visage du Christ, et pour que toi, tu sois apaisé. Et je lui dis, pour que tu sois apaisé, il faut que tu comprennes qu'en fait, elle est au royaume de Dieu maintenant. Et alors, c'est compliqué pour ceux qui ne sont pas croyants. Moi, la mort ne m'a jamais trop angoissé, mais là, de moins en moins. Ce n'est pas que j'ai hâte de rencontrer notre Dieu, mais ce n'est vraiment pas une appréhension. Et j'essaie de faire comprendre aux gens qui m'entourent que, en fait, par le conseil, je leur explique que pour quand on est croyant, et en fait, même s'il n'est pas croyant, en fait, il l'est sans le savoir. Parce qu'à un moment donné, il aura la vérité révélée devant les yeux. Et donc, les gens ont vu cette capacité que j'ai à écouter. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui me donne cette force. Il œuvre en moi pour que j'explique, pour que j'essaie de rendre le monde un peu moins dur pour ceux qui sont autour de moi en expliquant les choses. Et je crois que ma conversion, en fait, elle m'a apporté beaucoup d'apaisement sur la compréhension du monde. J'étais un garçon qui s'est toujours interrogé sur ce monde. Et une fois qu'on a compris qui avait créé, moi, j'invite tout le monde à relire la Genèse. On le fait à Pâques. Et ensuite, à écouter le cantique des créatures. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très éclairant sur le monde. Et quand on comprend le monde, on l'accepte mieux et on l'accepte aussi dans les moments difficiles qu'on peut vivre. En fait, c'est un tout. Pour que tout existe, il y a le bien, mais il faut qu'il y ait le mal. Et après, c'est à nous à faire triompher le bien. Et c'est ça, je trouve, que les gens voient en moi. Et j'essaie de le faire à mon modeste niveau. Hein. Je ne suis pas du tout prédicateur, mais juste faire du bien en tant que chrétien autour de soi.
Monique, vous nous avez dit que vous ne pouviez pas vous taire. Dans votre milieu professionnel, est-ce qu'il n'y en a pas qui vous disent « Bon, allez, c'est bon avec ton Dieu, là, tu nous saoules
?» Alors, je ne saoule pas mes collègues en disant « Je suis chrétienne, nanana, mais j'essaie d'aimer mes collègues. J'essaie d'aimer mes collègues, d'être disponible au service de mes collègues. Et là où il y a la tristesse, j'essaie d'apporter la joie. Et ils me disent à chaque fois « Pourquoi tu es tout le temps souriante ? Ton chef, il t'engueule et tu souris tout le temps. » Je sais que ce n'est pas moi. Parce que je ne veux plus attrister le Saint-Esprit qui est en moi. Et pour cela, j'essaie de vivre dans l'amour, le pardon, d'avoir un regard bienveillant sur toutes les personnes. Tous les jours, je demande au Saint-Esprit, « Guide-moi. Guide-moi, c'est une lumière qui est derrière moi et qui m'éclaire chaque jour. » Donc dans le milieu professionnel, c'est par l'amour, le regard porté sur mes collègues qui les intrigue, qui me pose des questions. J'aime bien les témoignages, je vais vous donner un autre témoignage. J'ai un collègue qui me disait, mais moi je suis pas bien, je vais voir un magnétiseur qui me fait du bien, mais ça dure pas, mais toi tu es tout le temps bien. Alors j'ai osé lui dire, moi j'ai un magnétiseur qui est très efficace. Si tu veux, on ira le voir. Alors je lui dis, j'y vais tous les jeudis entre midi et deux. Si tu veux, tu viens avec moi. Ah ouais, ah, je veux bien, hein, parce que tu es tout le temps souriante, on ira le voir. Alors je l'ai amené au Saint-Sacrement. Alors j'ai dit, voilà, on a ouvert le tabernacle. J'ai dit, bon voilà, il est là, tu lui parles, tu cries, tu pleures, tu fais tout ce que tu veux. Si au bout d'une minute tu veux partir, tu me dis, on part. Et on est resté 45 minutes. Elle est sortie de là, elle était bien, elle a pleuré, elle m'a embrassée. Et le jeudi d'après, on y retourne. Un jour, j'ai dit, je ne peux pas, mais tu peux y aller. Et elle a continué. Elle a continué à y aller toute seule. Voilà l'œuvre du Seigneur. Je lui rends grâce parce qu'il touche les cœurs. Et elle en a parlé à d'autres. Voilà.
Elle en a parlé à d'autres, c'est-à-dire?
Alors, il y a d'autres collègues qui étaient en difficulté un jour. Elle leur a dit, va voir Monique. Elle va prier avec toi. Alors, il faut dire que dans le milieu professionnel, on est croyant, on y croit, mais on ne veut pas que la personne qui est à côté le sache. Donc, on vient me voir en cachette. Où tu veux un café? On va au café. Au fait, je suis pas bien avec mon mari, ça va pas. Et franchement, je suis pas bien ou je viens de perdre quelqu'un et tout. Et à chaque fois, je leur dis, vous êtes croyants. Le témoignage sera long. Il y en a même qui ont demandé le baptême et qui se sont réconciliés avec leur mari. Ça fait boule de neige. Après, ce n'était pas moi, c'était l'autre collègue qui amenait. Alors, je rends grâce à Dieu parce que la gloire ne vient pas à moi, mais à Dieu. Voilà.
Alors là, on va faire une petite devinette. Mais en fait, je vais déjà vous donner les réponses. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir vous en souvenir tout au long de cette journée. L'Esprit Saint dispense combien de dons? 7 dons. Bravo. Le don de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de piété et de crainte de Dieu. Lequel de ces dons, alors là, c'est plus une devinette, ça, c'est du témoignage. Lequel de ces dons l'Esprit Saint vous fait-il vivre, chacun en particulier? Clémence.
Je pense tous, parce que Dieu, il n'est jamais avare dans ses dons. Des manières de se donner particulièrement dans les sacrements, enfin, il y aurait plein de trucs à dire, mais peut-être forcément dans l'épreuve, c'est le don de force que j'expérimente le plus, mais que j'ai expérimenté justement de manière plus forte. Maintenant que j'ai compris que c'était pas à moi d'être forte, que le don de force, c'était pas que ça me rendait plus forte, c'est que ça laissait la place en moi à Dieu qui, lui, est force. Et ça a vraiment tout changé. C'est-à-dire que j'ai pas attendu, du coup, de me sentir une super-héroïne, quoi. En fait, je continue à avoir des moments où c'est dur. Et je m'inquiète plus de ça. Parce qu'en fait, je sais que j'ai pas besoin d'être courageuse, d'être persévérante, forte, joyeuse. Parce que Dieu l'est en moi. Et que parce qu'il l'est en moi, par son Esprit Saint, ben, en fait, ça suffit. Voilà.
Vous avez dû faire ce travail de pauvreté dont parlait Monseigneur juste avant cette table ronde.
Ouais, complètement. C'était drôle parce qu'il en parlait en disant que la sainteté, c'était accueillir ses pauvretés. Et moi, depuis que je suis toute petite, je veux être sainte. Ce n'est pas une question. Et j'ai mis du temps à comprendre que la sainteté, ce n'était pas la perfection. Et que justement, la sainteté, c'était accueillir tout ce qu'on a de pauvre, de vulnérable. Et justement, que tout ça, c'était ce qui faisait de la place à Dieu. Maintenant j'apprends un peu à la force du poignet tout ça. Enfin non, pas à la force du poignet, mais un peu, de manière accélérée avec l'épreuve. Mais en fait, c'est un chemin qui a commencé déjà avant d'accueillir ce que Dieu a posé en moi comme talent, comme capacité à parler de lui et tout, et le faire grandir, parce qu'on est aussi responsable de ce que Dieu dépose en nous. Mais aussi accueillir tout ce qui est plus fragile. Et en fait. Là-dedans, le laisser vraiment inonder de sa grâce pour que lui passe, quoi.
Alors, sur les dons de l'Esprit-Saint, j'ai parlé du conseil tout à l'heure, qui, je trouve, c'est amplifié. Donc là, si on n'y voit pas l'œuvre de Dieu, c'est qu'on est aveugle ou qu'on ne veut pas le voir. Et la piété. Honnêtement, qui aurait pu penser que je puisse consacrer autant, c'est jamais assez, je trouve, à Dieu par semaine. Donc voilà, j'ai fait mon catéchisme, on continue après maintenant encore avec mon équipe d'accompagnants que je salue. J'ai vu Évariste et je sais que Michel est là. La piété, c'est important en fait. Maintenant, il ne peut pas se passer une semaine. Quand je n'ai pas de messe, c'est impossible. Quand je suis en vacances, alors j'ai l'application qu'on a tous, hein, Messe Info, donc je cherche autour de moi, alors qu'on est à la campagne, c'est là qu'on voit la difficulté parfois de pratiquer sa foi. Il faut faire 30 km pour trouver un clocher. Mais oui, c'est vrai que je suis souvent en contact, soit avec les Eucharisties, soit avec le chemin néo-catéchuménal. Et en fait, c'est pas. Les gens me disent, mais quand je suis en famille, je m'échappe le dimanche pour aller à la messe et je les rejoins après. Parce que malheureusement, je suis souvent seul à y aller. Mais bon, c'est pas trop gênant. C'est vraiment la piété, c'est quelque chose. Enfin, c'est un don. Je ne me force pas. Enfin, je crois pas que personne se force pour aller à la messe. Et c'est devenu indispensable à ma vie. Et une fois, je suis allé à la messe et dans le bulletin paroissial, il y avait une exposition de Carlo Acutis qui était chez les Dominicains et qui parlait des miracles eucharistiques. Et l'eucharistie, comme je communiais pas encore, j'avais un peu du mal à comprendre vraiment la signification, la puissance. Et du coup, j'y suis allé un dimanche pour voir cette exposition que elle est itinérante, on peut la retrouver sur Internet. Et en fait, ce saint, parce qu'il va bientôt être saint, il m'a fait comprendre que Jésus était vraiment dans l'hostie. Et en fait, j'avais pas cette conscience. Et c'est la piété qui m'a été donnée. Le fait d'aller à l'église qui m'a fait connaître cette exposition, qui m'a fait rencontrer ce saint et qui m'a éclairé davantage. Et maintenant, enfin, dès que j'ai communié, j'ai pensé à lui, à Carlo, et on m'a offert un livre. Enfin, sa maman a écrit un livre, on me l'a offert à Noël. Et les gens autour de moi, j'ai été étonné de la diffusion que ma foi pouvait avoir par contact, par petite capillarité. Les gens, ils se sont dit, tiens, mais il est chrétien, il commence à m'offrir des cadeaux, des livres en rapport avec la foi. Et je trouve que pour eux, c'est déjà un peu un début de cheminement. Alors même s'il est lointain, après, c'est à moi de le faire amplifier par le don du conseil. Et donc voilà, je crois que la piété, le conseil, la connaissance aussi, la science, c'est... Maintenant, je comprends le monde qui m'entoure. Je sais ce que Dieu a voulu faire et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il nous laisse toujours libres de croire ou de ne pas croire. Il nous laisse libres de venir ce dimanche ou de ne pas venir. Et en fait, quand il nous laisse la liberté, en fait, il nous laisse le choix de nous sauver. En fait, il nous sauve, mais en toute liberté, et c'est ça qui est fort.
Monique, quel don du Saint-Esprit avez-vous envie de mettre en particulier en avant ? Aujourd'hui.
Alors, je dirais aussi le don de piété et l'amour, parce que je suis entourée de tellement de personnes qui ont soif que si je ne passe pas beaucoup de temps dans la prière, si je ne m'équipe pas dans la parole, je ne sais pas comment je pourrais aider, je ne pourrais répondre. Donc, je suis en chemin, comme dirait quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Donc, je passe beaucoup de temps dans la prière, dans les divers sacrements, pour nourrir ce Saint-Esprit qui est en moi. Parce que si je ne le nourris pas par les sacrements, surtout, je pense qu'il ne va plus briller. Voilà.
Parce que ça fait 3 fois qu'on parle de sacrements. Et du coup, je voudrais dire un truc, parce que pour moi, il y a... Moi, j'arrive à un moment où je me rends compte que je ne sais pas tout et que je ne comprends pas toujours ce que Dieu fait, que je ne comprends pas toujours comment il faudrait lui laisser la place. Mais il y a une chose où je sais que je ne peux pas me tromper, c'est dans les sacrements. Et pour moi, ça a vraiment été une redécouverte, que c'était la manière ordinaire pour l'Esprit Saint de se donner à nous. Et pour moi, ce qui a été une vraie... je ne sais pas comment dire ça, mais... une vraie force, c'est de... se souvenir que les sacrements, on ne les reçoit pas que pour soi-même, qu'on les reçoit en fait, que ça édifie le corps du Christ, donc l'Église entière, et qu'en fait, il y a une fécondité qui nous dépasse. Quoi. Voilà, c'est pas juste moi et Dieu. Et du coup, moi, j'ai par exemple beaucoup reçu cette force dans l'épreuve par le sacrement des malades, qui est pas toujours un sacrement facile à recevoir, mais à chaque fois, je me suis rappelée, mais en fait, tu le reçois pas que pour toi-même, tu le reçois aussi parce qu'en fait, ça dépasse. Enfin, l'Esprit Saint, ça édifie le corps entier. C'est pareil pour la réconciliation. Il y a les confessions pendant toute la journée là-bas. En fait, parfois, c'est le petit coup de pouce de se dire, mais en fait, je sais pas où est Dieu, je me le sens plus dans ma vie, il est plus sensible. Bah, une chose où on peut pas se tromper et on est sûr de le recevoir, c'est les sacrements. Et en plus, on les reçoit pas que pour nous-mêmes. Du coup, merci aussi à Gilles et tous ceux qui sont confirmés parce que, ce que vous recevez, enfin, en fait, ça édifie tous et ça édifie le corps entier. Et vraiment, pour moi, ça, c'est une force de se dire, comme catholique, on a un endroit où l'Esprit Saint se donne à coup sûr et pas que pour nous, c'est les sacrements.
Merci beaucoup. Je ne sais pas si on doit s'arrêter. Je demande au grand Manitou qui est derrière moi, mais il est très concentré. Est-ce qu'on a encore du temps ou pas? Oui, 2 minutes. 2 minutes pour conclure. Monique.
Alors, moi, je dirais, pour vivre avec le Saint-Esprit, il faut être obéissant. Moi, j'ai donné une feuille blanche au Saint-Esprit et je lui demande d'écrire ce qu'il veut dessus et je me laisse guider par lui. C'est mon GPS, Merci.
En fait, j'aurais envie de conclure avec ce que j'ai dit sur le sacrement juste avant, mais je peux redire aussi ce qui, pour moi, est quelque chose peut-être que certains ont besoin d'entendre. Si justement, aujourd'hui, vous êtes dans l'épreuve, vous ne savez pas trop où est Dieu, ben en fait, il est là où vous êtes, pas ailleurs. Et l'Esprit Saint, c'est vraiment celui qui fait que Dieu est l'éternel présent, qui se donne grâce après grâce dans l'instant, quoi. Et donc, ne le cherchez pas ailleurs que là où vous êtes et que comme vous êtes, pas comme vous rêvez d'être ou comme vous rêvez d'être votre vie. Voilà, c'est peut-être ce que j'ai le plus appris ces derniers temps.
Et peut-être pour conclure, souvent quand on est converti comme moi, les gens nous disent, mais enfin, il y a même quelqu'un que je connais qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu t'embêtes avec ça, l'Église, etc. Et parce que lui, il y voyait des contraintes. Voilà, la religion chrétienne, c'est une religion d'interdiction. En fait, c'est le problème, c'est ça. C'est la façon de présenter les choses et les gens qui sont à l'extérieur de l'Église, quelle image ils ont de notre religion. Et ils ne se rendent pas compte que les commandements de Dieu, ils ne nous demandent pas de suivre ces commandements juste pour nous embêter. Hein. Et en fait, c'est quand on suit ces commandements, et c'est ce dont je me suis aperçu dans mon chemin, quand on suit ces commandements, on modifie un peu la conduite de notre vie. C'est pas pour nous embêter, c'est juste parce que c'est la route vers le salut. En fait, ça nous libère de nos esclavages. On consacre plus de temps à Dieu, aux autres. On n'a que des bonnes ondes à diffuser. Et ça nous rend plus apaisés aussi à nous. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Et donc, voilà, essayons de... Alors, on est tous faillibles. Hein. Toutes les semaines, je m'en veux parce que je ne me suis pas bien conduit ou je n'ai pas été assez, diligent. Mais bon, voilà, donc... Faisons ce chemin ensemble et je crois que les dimanches comme ça, ils sont rares. Je voulais aussi juste remercier tous nos prêtres. Parce que moi, sans les prêtres, ben, je ne serais pas là aujourd'hui pour parler de ma foi. Et ils se dévouent beaucoup, ils passent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, ils sont accablés. Mais bon, voilà, une pensée pour eux aujourd'hui.
Merci beaucoup. Merci Gilles Bousquet, merci Clémence Pasquier, merci Monique Dorégo. Vous nous avez montré comment l'Esprit Saint agit dans vos vies de différentes manières et à différentes étapes de votre foi. Cela montre que tous, ici présents, nous pouvons être visités par l'Esprit Saint et le laisser transformer notre vie. Nous allons donc recevoir une force, celle de l'Esprit Saint. Venez et voyez.
Présence. Chaque semaine sur Radio Présence, les écrivains présentent leur ouvrage et se confient au micro de Philippe Gilbert et Christophe Hein. Parole d'auteur, le lundi à 23h et le samedi 17h.
Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien.
Alors l'image de l'assureur, elle a, semble-t-il, pas mal souffert pendant la période du Covid. Et aujourd'hui, l'image de l'assureur est en train de remonter doucement.
Cet Internet rapporte à la mafia et au marché du crime 10 milliards d'euros aux États-Unis et 200 millions en France.
La rentrée littéraire est toujours aussi abondante. Heureusement, il y a des auteurs prolifiques qui chaque année nous honorent d'un nouvel ouvrage.
Bon, ça y est, nous avons décidé de faire notre deuxième enfant. Ça stresse un peu, car comment notre plus grand va le prendre ?
Le week-end dernier, je suis partie avec deux vieilles amies au cœur attentif et joyeux. Alors, je rentre toute pétaradante de liesse et remplie de ces partages.
On se dit souvent que les habitudes nous ankylosent, mais elles ont du bon, je vous assure, ces habitudes.
Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien.
Présence à Salise du Salat, 94.1.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
En ce lundi où l'Église célèbre la mémoire liturgique de Marie, mère de l'Église, le pape vient de présider la messe dans la basilique Saint-Pierre, une messe